tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom des éditions des Traits de la Cité pour célébrer l'apparition du roman Les Ombres du Monde de Michel Bussy. Donc avant de laisser la parole à nos invités, Michel Bussy, que vous connaissez, qui est géographe et romancier, Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, grand reporter, Pierre Bermond, je vous laisserai dire tout ça, et Marianne Caillot, journaliste littéraire, qui a accepté la lourde tâche de l'animation de cette rencontre. Je voulais d'abord vous remercier d'être avec nous aujourd'hui, ce matin, quasiment aux aurores, pour partager un moment très important dans la vie de notre maison d'édition. Comme vous le savez peut-être, on a la joie d'accompagner les romans de Michel aux Presses de la Cité depuis 13 ans. Et pourtant, pour ce 22e roman, on pourrait croire qu'on a déjà tout vécu ensemble, tout traversé. Mais non, c'est une première fois pour nous aussi. Parce que c'est la première fois qu'on se lance dans la grande aventure de la rentrée littéraire. Et si on a fait ce choix, c'est parce que c'est un roman tout à fait singulier dans l'œuvre de Michel. Singulier par son histoire, dont il vous parlera évidemment beaucoup mieux que moi. Mais aussi, cette singularité s'illustre dans l'accueil qu'il reçoit depuis sa parution, de la part des lecteurs, de la part de la librairie, de la part de la presse. Alors, le petit moment de fierté de toute la maison, on a eu la grande joie d'apprendre hier que Les Ombres du Monde figuraient dans la seconde sélection du prix Jean Giono. Et là, c'est le moment où je sors mon antichette sèche, parce que le prix Jean Giono est dédié au meilleur raconteur d'histoire qui couronne un ouvrage écrit en français, faisant une large place à l'imagination. Je crois que tout est dit et que c'est vraiment le sujet qui nous occupe ce matin, le lien entre le réel et l'imagination dans le travail romanesque. Comment, en partant du réel, on construit une œuvre d'imagination, parce que si ce roman est bien sûr une œuvre romanesque, il est aussi né d'une rencontre et d'un voyage très très réel entre Michel Bussy et Patrick de Saint-Exupéry en 2023 au Rwanda. Et je laisse vous en parler.
Oui, parce que là, vous avez tout dit.
Ah, mince.
Non, mais je vais vous rappeler, pour les plus jeunes, parce que je crois qu'il y a des très jeunes qui sont là, et vous, pour les oublier, brièvement, je vais vous présenter nos deux invités. Donc, Patrick de Saint-Exupéry est né le 16 septembre 62 à Boulogne-Billancourt, diplômé de l'Institut pratique du journalisme. Il a travaillé en indépendant tout d'abord pour France Soir, L'Express et Grand Reportage, puis est entré au Figaro en 1989. Au cours de sa carrière, il a couvert de nombreux pays et conflits, dont le Cambodge, le Libéria, l'Afrique du Sud, la guerre du Golfe, l'Iran, la Libye, l'Arabie Saoudite et le Rwanda, bien sûr, puis Moscou et encore l'Afrique. En 2008, il a fondé avec Laurent Beccaria la rue 21, puis en 2011, le MOOC, le 20e en images, et en 2017, l'hebdomadaire Hebdo. Présent au Rwanda lors du génocide, il accompagne le Front patriotique rwandais, puis les militaires français pendant l'opération turquoise. Ces articles déclencheront la constitution de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda en 1998. Patrick de Saint-Exupéry a écrit plusieurs livres sur le sujet. En 2004, L'introuvable, la France, l'inavouable, la France au Rwanda, aux éditions Les Arènes. Puis en 2009, une nouvelle édition de l'ouvrage intitulée Complice de l'inavouable. En 2014, avec Hippolyte, l'album BD La Fantaisie des dieux, et en 2021, la traversée. Signalons enfin, comme vous l'avez fait, que Patrick de Saint-Exupéry, lauréat du prix Albert Londres en 91 pour sa série de reportages au Libéria et sur la fin de l'apartheid. Michel Bussy, vous êtes né en avril 65 à Louviers dans l'Eure, professeur de géographie à l'Université de Rouen, où il a dirigé jusqu'en 2016 une MR du CNRS. Il est spécialiste de géographie électorale. Écrivain, il publie en 2006 aux éditions des Falaises son premier roman, Code Lupin, roman qui sera réédité de multiples fois. Depuis lors, Michel Bussy est devenu l'un des auteurs de thrillers les plus lus en France. On citera entre autres, dans sa longue bibliographie, Mourir sur scène, Sans famille, Nymphéas noir, Un avion sans aile, Maman a tort, Le temps est assassin, Ne lâche pas ma main, J'ai dû rêver trop fort, etc. Et donc, il nous offre aujourd'hui, pour une fois en pleine rentrée littéraire, comme vous l'avez signalé, une œuvre atypique pour lui, un gros et passionnant roman enquête sur l'un des pires épisodes de l'histoire, le génocide des Tutsis, intitulé Les Ombres du Monde et publié aux Presses de la Cité. Et comme vous me l'avez rappelé, il est présent sur les premières listes du Renaudot des lycéens et du prix Jean Giono. Donc en 2023, vous voilà tous les deux au Rwanda. Et vous nous expliquez ça à la toute fin de votre ouvrage, Michel Bussy. Vous dites, oui, je voulais passer un coup de fil. à Patrick de Saint-Exupéry. Mais c'est aussi simple que cela. La vie, on passe un coup de fil et on se retrouve en Rwanda avec l'un des plus grands spécialistes de l'Afrique.
Alors, au départ, c'était pas un coup de fil, c'est un mail, en fait. C'était un mail, en fait, que alors, j'ai écrit à trois personnes ce mail, à Patrick, à Colette Brackmann, hein, qui est donc journaliste belge, qui a aussi couvert le Rwanda et écrit des ouvrages fondamentaux, donc qui est aussi une lanceuse d'alerte sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Et puis Hélène Dumas, qui est chercheuse CNRS et qui est sans doute la meilleure spécialiste du Rwanda en France et du Rwanda, puisqu'elle a aussi la nationalité rwandaise maintenant. Donc en fait, voilà, donc j'avais lu beaucoup sur le Rwanda et j'avais voilà, trouvé que ces trois personnes étaient pour moi les trois personnes à qui j'avais envie de partager mon envie un peu étrange, hein, de dire ça fait très très longtemps que je m'intéresse au Rwanda, qu'en tant que chercheur en géographie politique, j'ai l'impression quand même de relativement bien connaître ce conflit et ce génocide, même si je n'ai jamais mis les pieds au Rwanda. Et puis surtout cette idée qui me trottait de dire, de créer une fiction, et une fiction en plus en mode thriller, ou en tout cas en mode récit policier, récit d'aventure, enfin je ne sais pas, de suspense, pour quelque part vulgariser, quelque part faire œuvre de pédagogie sur ce qui s'est joué au Rwanda, sachant que j'avais évidemment lu énormément de romans, hein, ceux d'Yael Faye, ceux de Scholastique, du Kasanga et beaucoup d'autres sur le Rwanda, et qu'il me humblement, qu'il me semblait manquer un récit racontant la dimension politique, en particulier la dimension de l'engagement français et de la responsabilité française, voire de la complicité française vis-à-vis de tous ces événements.
Et donc vous envoyez trois mails et vous avez une réponse sur les trois mails.
J'ai eu trois réponses tout de suite. Trois réponses enthousiastes, vraiment, qui m'ont tous dit il faut le faire, c'est important, il faut en parler, il faut qu'il y ait des... Parce que ce que m'a dit Scholastique ou Kasanga, il faut qu'il y ait des témoins du dehors, et alors à des registres différents, et notamment Patrick, lui, a été le plus radical, puisqu'il m'a dit... Ben moi, je retourne au Rwanda, je dois retourner au Rwanda, donc prenons la vie ensemble.
Alors, Patrick, ce que dit Michel, je ne sais si c'est vrai, mais je pense que oui, vous lui dites exactement, on prend la vie ensemble, et si durant le vol, on s'entend bien, et ben vous me suivez dans mes pérégrinations au Rwanda.
Ben oui, c'est ça, oui, on a décidé...
Combien de temps, alors, le vol?
Le vol dure à peu près 8 heures, on s'est croisés dans l'avion, on a discuté, et puis on s'entendait bien, donc on a poursuivi ensemble pendant une semaine à travers le Rwanda. C'était... Quelque part, c'était logique, naturel et simple.
Vous connaissiez l'homme, vous connaissiez l'auteur?
Non, je ne connaissais pas l'homme, pas du tout, non.
Vous n'étiez pas un peu un saltimbanque à vos yeux?
Non. Si vous voulez, nous, les journalistes, nous sommes contraints par quelque chose qui s'appelle le réel. Et on ne peut pas s'y échapper. Et on n'a pas d'alternative. Nous sommes collés au réel et ça doit être vrai. Et rajouter sur l'histoire du Rwanda une part d'imagination, une part de fiction, une part de tout en reprenant les données précises de ce qu'était le Rwanda, de ce qui s'est passé au Rwanda, c'était extrêmement intéressant. Donc il fallait franchir ce pas. Et Michel proposait de le franchir, donc allons-y, et puis on verra bien. Et puis, mais il faut toujours avancer. Et Michel a décidé d'avancer.
Ce qui est impressionnant, Michel, c'est que vous dites bien que depuis le génocide, vous n'avez eu de cesse de lire des milliers de pages de rapports. Enfin, vous avez opéré 25 ans de veille documentaire. Et puis vous l'avez enseigné à vos étudiants. Et c'est un peu atypique dans une vie de professeur et de chercheur, non, que cette espèce de passion de savoir, enfin, de connaissance.
Non, je ne suis pas sûr que ce soit typique, parce que, comme je le dis, moi j'ai recruté en 94, donc l'année du génocide, donc il y a eu sans doute quelque chose d'assez marquant, puisque c'est vraiment le premier grand événement qui a marqué en fait ma carrière d'enseignant-chercheur, et notamment, c'est vrai que les TD que j'organisais avec les étudiants étaient vraiment marquants, les étudiants ressortaient à la fois bouleversés par un génocide qu'ils ne connaissaient pas généralement, et puis... 94 et les années qui suivent, en plus, on a vraiment un grand flou dans la façon dont dans le génocide est traité. Il y a encore la thèse du double génocide. Enfin, il y a énormément d'informations, de contre-informations. Donc, aider les étudiants à trier cette information. C'était pour eux, je pense, quelque chose de passionnant. Et puis évidemment, le génocide lui-même, c'est-à-dire les actes qui ont été commis, qui interrogent évidemment sur l'humanité, sur le bourreau, la victime, enfin les travaux de Jaurès-Feld, etc. Donc là, effectivement, c'était un télé. Après, moi, on me présente souvent comme spécialiste de géographie électorale, mais en réalité, j'étais plutôt spécialiste de la géographie de la démocratie au sens large. C'est là-dessus que j'ai notamment encadré beaucoup de thèses, notamment de thèses d'étudiants africains sur la démocratie au Sénégal, au Mali, etc. Et l'idée, est-ce qu'on peut comparer les démocraties? Est-ce que même par des élections ont du sens? Comment on va essayer de mesurer une démocratie? En quoi elle peut être durable? Bon, voilà. Donc, beaucoup. Et donc, le Rwanda, pour moi, restait une sorte de... de traumatisme, parce que c'est ce que j'ai vraiment voulu raconter dans ce livre. Le livre commence pas en avril 94 avec le début du génocide. Il commence en octobre 90 quand les Français arrivent et quand, quelques années après le discours de la Baule de Mitterrand, il y a l'idée qu'il faut presque faire du Rwanda un exemple pour qu'il devienne démocratique avec les accords d'Arusha. Mais en tout cas, c'est sans doute cet aspect, ce contraste entre une marche vers la démocratie, d'un côté, et ce génocide qui va être enclenché à un moment donné où presque la pièce va tomber du mauvais côté. C'est pour ça que dans ce roman, je voulais vraiment, on détaille, on a coupé, ces accords d'Arusha, la nouvelle constitution, et mon héroïne Espérance, c'est une jeune démocrate, c'est-à-dire qu'elle s'engage dans la démocratie de son pays en espérant que ce pays puisse se transformer. Donc ça, c'était très important pour moi, et donc... Au-delà de ça, effectivement, il y avait quand même cette idée très tôt d'avoir mes deux personnages principaux, Espérance et Yorick, une jeune démocrate, prof de maths rwandaise, un militaire français, qui vont se rencontrer. Et à partir de là, il y a une sorte d'allégorie entre la France et le Rwanda. Et c'est leur histoire à tous les deux qui va raconter, entre guillemets, la grande histoire. Ça, à un moment donné, je me suis dit, ces personnages, ils m'ont hanté pendant plus de 20 ans, Espérance et Yorick. Oui. Et je me disais, il faut un jour que je raconte leur histoire.
Donc, 25 ans de veille, et pendant 20 ans, vous êtes hanté par ces personnages qui se dessinent dans votre esprit. Et vous dites d'ailleurs, écrire des livres policiers pousse à se questionner sur les racines du mal. Alors là, vous êtes dans votre cœur de cible, si je peux dire, évidemment, avec le génocide des Tutsis. Et vous, Patrick, vous aussi, donc on l'a dit, en 94, vous êtes sur place, mais vous n'avez eu de cesse également, depuis lors, d'enquêter, de continuer à comprendre ce qui a pu se passer, d'interviewer des témoins. Et ça a été aussi une longue traque, si je peux dire, intellectuelle ou en tout cas journalistique que la vôtre depuis...
Oui, moi, la première fois que j'étais en Rwanda, c'est en 90, donc lorsque les événements de 94 se produisent, je suis au courant, je suis dans le jus. Et après 94, effectivement, je vais continuer à travailler. Mais sur le Rwanda, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on entend souvent dire que c'est complexe. C'est trop complexe, on ne va pas s'y intéresser. Ce que je trouve totalement aberrant, pour une raison toute simple, c'est que lorsque, et ça s'est produit très, très souvent ces dernières années, lorsque on parle du Rwanda dans les écoles, les élèves sont passionnés. Mais dans les écoles de banlieue, les élèves sont passionnés. Là, actuellement, il y a une troupe de théâtre qui, l'année dernière, avait déjà fait ça, mais refait ça cette année, de la PJJ, de la police judiciaire, qui met en scène, avec des jeunes perdus, un peu égarés, une BD qui s'appelle « Fantaisie des dieux » sur le Rwanda. Et ces gamins-là font des trucs incroyables. Je les ai vus l'année dernière sur scène, c'était incroyable. Et là, je parle de la jeunesse. Et de l'autre côté, j'entends des adultes, des gens intellectuellement formés, qui viennent dire « c'est compliqué, on ne comprend pas ». Et c'est pour ça que ce que fait Michel est extrêmement appréciable. C'est parce qu'il vient leur dire « mais non, on peut s'intéresser à ça, on a le droit de s'intéresser à ça, et on a le droit de rentrer dans cette histoire et de se poser des questions ». Et ça, c'est formidable.
Avouez que pour le Bulgus, au lieu de lire des centaines de milliers de pages de rapports, etc., lire le roman de Michel Boussy, ça nous ouvre des portes extraordinaires et ça nous permet quand même de rendre un peu plus fluide et limpide quelque chose qui est quand même un tout petit peu complexe. On va le voir dans le déroulé des événements. Et commençons déjà par cette information d'importance, je trouve, à laquelle vous faites référence tous les deux, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence entre les Hutus et les Tutsis. C'est une création due aux colons belges. Racontez-nous ça un peu. Comment se fait-il que tout d'un coup, on ait décidé qu'il y avait deux ethnies antagonistes, en quelque sorte,
C'est assez simple, en fait. Diviser, c'est un moyen de régner. Et pour le colonisateur, le colonisateur décide de diviser l'Afrique non seulement en blocs géographiques, mais aussi à l'intérieur de ces blocs, parce que c'est une manière de continuer à tenir un peu les rênes de ces pays-là. Et ça va être fait de manière totalement outrancière par les Belges au Rwanda, qui vont arbitrairement diviser la population en plusieurs groupes. Et lorsqu'on regarde les images d'archives, on tombe sur des choses aberrantes. On voit des Belges en train de mesurer la hauteur du front, les oreilles, et en fonction de ces critères-là, dire les uns seront ceci, les autres seront ceci. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On colle des étiquettes. On n'est pas dans une réalité qui est inscrite dans l'histoire. On colle des étiquettes. Et on les colle de manière tellement forte que... On les imprime de manière tellement forte qu'elles vont persister et qu'elles vont mener, in fine, au drame de 94, à la tragédie absolument incroyable de 94.
Et on les imprime d'autant plus qu'on les met sur les cartes d'identité.
On les met sur les cartes d'identité. D'ailleurs, c'est la seule existence, hein, puisque c'est la carte d'identité en plus du père, hein, qui permet d'être ou tout ou Tutsi. Hein. Si votre père est Tutsi, vous deviendrez Tutsi, hein, peu importe ce qu'est votre mère. Donc, du coup, ça explique évidemment, comme il y avait des mariages mixtes, que même les différences physiques initiales, si elles existaient, ont en grande partie disparu. Après, ce que je veux dire, puisqu'on l'a, on a employé le mot ethnie, par exemple. Moi, un des points sur le plan littéraire, de travailler avec Patrick et de travailler avec Hélène et Colette et d'autres, c'était notamment d'être très précis sur les termes. Par exemple, Patrick m'a dit, j'employais parfois le mot ethnie, il m'a dit, tu dégages, tu ne parles pas d'ethnie.
C'était justifié dans le sens où une ethnie se caractérise par une religion, une langue, etc. Au Rwanda, tout le monde a la même religion, parle la même langue. Rien ne justifie l'emploi du mot ethnie d'un point de vue factuel. Et si vous voulez, on a énormément de pollution parfois dans la tête en Europe par rapport à l'Afrique. Et le Rwanda est un cas typique de ces pollutions qui se sont opérées et qui ont abouti à quelque chose de stupéfiant.
Michel a été un bon élève.
Oui, mais moi, ce qui m'intéressait en tant qu'écrivain et en tant que chercheur, c'est ça, c'est d'employer les mots précis et bien volontiers. On a discuté avec Patrick et j'ai retiré ce mot ethnie où je l'ai expliqué. Et ça, c'était important, comme avec Hélène Dumas, on a beaucoup travaillé sur l'emploi des mots Tutsi et Hutu eux-mêmes. Parce qu'en 94, bien sûr, on parle de Hutu et de Tutsi. Mais aujourd'hui, mon roman se passe en 2024. Est-ce qu'on peut encore en parler autant que tel? Alors, parfois, par exemple, dans le roman, avec Hélène, on dit, on va plutôt mettre une femme Tutsi plutôt qu'une Tutsi. Voilà, parce qu'il y a une nuance qui peut être très fine, mais qui ne dit pas tout à fait la même chose. Donc ça, j'étais aussi assez fier dans ce roman d'être obligé, finalement, d'être... par exemple, je ne parle pas de folie. Il y avait toute une série, parce que les mots ont beaucoup de sens, considérant le thème tel qu'il est. Puis toute l'histoire, par exemple, je fais quand même beaucoup de médias, et je passe mon temps, et là, ça reprend les journalistes qui disent en permanence le génocide rwandais. Donc, le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais effectivement, et c'est compliqué parce que dans la plupart des gens parlent du génocide rwandais. Et donc, il y a encore un travail à faire pour dire non, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda.
Oui, vous l'avez évoqué dans ce roman, Les Ombres du Monde, vous faites habilement quand même des allers-retours dans le temps entre donc 1990-94 et décembre 2024, et vous mêlez les personnages réels et les personnages de fiction. Et ça paraît tout simple en disant ça, mais quel travail, non ? Ces personnages vous hantaient depuis un certain nombre d'années, mais concrètement, combien de temps avez-vous mis pour écrire ce roman à partir du moment où vous vous êtes dit « Allez, je peux y aller ».
Alors, il y a un travail long qui était d'avoir mes personnages, de savoir globalement ce qu'allait leur arriver. Ça a pris une vingtaine d'années, donc ça se construit très très lentement. Voilà. Et puis après, il y a un travail très court qui était de dire je vais partir au Rwanda avec Patrick. Donc j'avais des listes de questions, une liste de courses avec des endroits que je voulais voir, des questions que je voulais poser, des choses que je voulais vérifier, comme Bicicero par exemple. Et puis après, il y a eu le hasard. Par exemple, une grande partie du roman se déroule à Kibéo, donc c'est là où était originaire Espérance. Hein, donc c'est le. Parce qu'il y a eu des massacres, évidemment, dans beaucoup de communes au Rwanda. J'ai choisi de focaliser sur Kibéo. Et là, je le dois à Patrick, hein, qui m'a emmené à Kibéo.
D'accord.
Et c'était parfait, parce qu'effectivement, Kibéo, c'est à la fois un lieu presque extraordinaire, hélas, où effectivement dans une église on a assassiné 5000 ou 6000 Tutsis, mais c'est aussi un lieu des apparitions mariales, donc c'est le plus grand lieu de pèlerinage, donc du coup ça crée quelque chose d'autre, puis c'est aussi un lieu où il y a eu des camps, effectivement, où il y a eu aussi des morts côté Hutu. Donc voilà, donc quelque part il y avait comme ça quelque chose qui me permettait de raconter beaucoup de choses, et en plus d'avoir un lieu très particulier, parce qu'avec ces vendeurs d'eau bénite, en vin d'icône, etc., Kibéo, ça donne quelque chose de tout à fait inattendu, qui du coup, je pense, crée dans le roman, voilà, puis t'appelais par exemple Trimien, qui est le bourgmestre, qui est un des personnages, évidemment, oui, lui, je l'invente complètement, mais on peut se douter qu'évidemment, autour du pèlerinage, il y a forcément du business à se faire, évidemment, quand vous construisez une esplanade, des hôtels, etc., donc ça, je l'invente, mais quelque part, ça me permet de créer aussi des personnages qui ont une trajectoire, et lui, évidemment, c'est un couple très croyant, et qui va se dire, on va prendre une partie du génocide, mais on va en profiter aussi pour s'enrichir, en tout cas avec notre destin particulier tel qu'il est. Donc voilà, donc c'est la fiction qui permet d'inventer des personnages, évidemment qui s'appuie sur tout ce que j'ai pu découvrir. Je prends un autre exemple, alors j'essaye de pas trop spoiler, mais là on est entre, on va dire entre Apicio. Quand on va à Bicicero avec Patrick, donc cette fameuse colline de Bicicero qui est le lieu de résistance des civils Tutsi. Et donc c'est un long chemin dans une piste. À un moment donné, je croise une petite plantation de thé qui est juste à côté, avec des camions du thé, des gros sacs de thé. Et là, je pense que je ne le dis pas à Patrick à ce moment-là, mais je le note en disant, tiens, ça c'est intéressant, parce que ça, je vais pouvoir m'en servir. Je me disais, comment mon héroïne va-t-elle pouvoir quitter Bicicero, alors qu'a priori, c'est un piège, évidemment. Donc là, on rentre dans la fiction, c'est-à-dire, j'essaie d'être le plus fidèle possible à ce qui s'est passé à Bicicero. Et d'un autre côté, je dois nourrir mon roman, donc il faut que mon héroïne elle arrive à quitter Bicicero. Et que le voilà. Donc ça, c'est mon choix personnel. On peut me dire c'est n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de transformer la réalité. Mais bon, moi, je suis persuadé que pour les lecteurs, ils ont envie de continuer de lire l'histoire et savoir ce qui va se passer après, parce que mon héroïne, elle va s'échapper avec sa fille. Et donc, voilà, donc je suis sur place, je regarde et je me dis, tiens, j'ai une idée qui me vient. C'est peut-être rocambolesque, mais c'est le jeu d'accepter ça pour qu'après, on comprenne ce qui s'est passé à Bicicero, et après, bah, elle va arriver à Goma, et après, qu'on comprenne ce qui s'est joué dans le camp de Goma.
À ce stade-là, il faut peut-être rappeler qui est votre héroïne, donc Espérance. Elle est rwandaise, elle est prof de mathématiques et elle rencontre à Kigali le capitaine Jorik qui lui fait partie du premier régiment de Bayonne. Il est là, il est avec les troupes françaises. Bon, ils vont s'aimer, ils se marient, ils vont avoir un enfant, il s'appelle Aline. Et cette Aline aura plus tard, mais en France évidemment, une fille qui s'appelle Maë. Voilà. Et ce sont ces deux ou trois générations à travers lesquelles vous allez raconter effectivement la tragédie, et à travers la petite Maë et son grand-père, ils vont retourner donc en 2024 pour la première fois au Rwanda, et c'est là où vous allez vous nourrir de votre voyage avec Patrick. Mais du côté des personnages réels, et là il faut absolument qu'on en parle, il y a, et c'est totalement terrifiant, il faut parler de ces membres de l'Akazu. L'Akazu, c'est une sorte de mafia Hutu, et ils sont au cœur de votre roman. Donc, si vous pouviez nous dire un petit mot sur cette charmante Agathe Kanzinga, qui est donc issue d'une famille importante du Nord, et qui est la veuve, enfin la future veuve, c'est ce que je veux dire, du président. Racontez-nous, enfin voilà, décrire un peu cette espèce de mafia sanguinaire que sont cet Akazu.
Oui, enfin, la nouveauté de ce roman, pour moi en tout cas, c'était de mêler des personnages historiques, hein, des personnages réels, qui parfois sont encore vivants, comme Agathe Kanzinga, à mes personnages de fiction. Et alors, Agathe Kanzinga, elle est...
Juste de préciser peut-être que c'est la femme du président, oui. La veuve du président.
On l'a dit. D'accord. Et elle vit toujours en France, d'ailleurs.
Elle vit toujours en France. Exactement. Elle a fait la une de l'actualité il y a très peu de temps, hein, puisque enfin, il y a eu son jugement, et que le jugement a abouti à un non-lieu, et que les associations, comme le parquet national d'ailleurs antiterroriste, et les associations ont fait appel, montrant leur consternation vis-à-vis de ce jugement. On pourra rentrer dans le détail peut-être tout à l'heure. Donc, alors Agathe Kanzinga, elle est loin dans mon roman, c'est-à-dire qu'on la croise de temps en temps, mais c'est une figure, plus lointaine. Mais oui, je voulais mettre en scène quelque chose.
Son frère.
Il y a son frère Protézède aussi, alors qui a fait lui aussi la une de l'actualité, puisqu'il est décédé 15 jours avant l'apparition du livre, et puis que son corps a été au Niger, en exil, en tout cas en étant surveillé au Niger, et son corps, on ne sait pas trop pourquoi, est arrivé en France, enfin, comment plutôt, pourquoi on sait peut-être, mais comment, on ne sait pas trop. Et là, a priori, son corps, il est quelque part, puisque on refuse, il devait être enterré à Orléans, le maire a refusé, donc pour l'instant, je ne sais pas où c'en est, apparemment le corps avait disparu.
Aucune corrélation, évidemment, entre la sortie de mon livre et de mon livre.
Peut-être qu'il a eu peur, ça lui a fait, ouais. Non, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, en tout cas, c'était particulier. Alors, clairement, à un moment donné, je me suis dit, je fais quand même un roman à thèse. C'est-à-dire que j'affirme dans ce roman qu'effectivement, Agathe Kazinka fait partie de la casou et est complice. Même si on ne la voit pas donner des ordres, etc., je n'invente pas ça. Mais en tout cas, je me mets dans la peau de ceux qui sont persuadés qu'effectivement, la casou existe et que un certain nombre de personnes importantes au Rwanda sont en train d'organiser le génocide. Ça, clairement, je fais cette thèse comme par rapport à Paul Barry, des mercenaires français. Là, j'affirme cette thèse parce que, de tout ce que j'ai pu lire, il me semble que cette thèse est assez largement documentée et étayée, et que ceux qui la nient ou la rejettent, leurs arguments ne me semblent pas suffisamment, en tout cas, ne sont pas du tout majoritaires de ce que moi, en tout cas, j'ai pu lire. Une nouvelle fois, je ne suis pas spécialiste, donc je me documente le plus souvent possible, le plus longuement possible, et après, j'en tire les conséquences.
Patrick, il y a encore des gens qui ont une voix et qui se mettent à l'encontre de cette thèse
de moins en moins.
C'est-à-dire
que maintenant, 94, ça fait plus de 30 ans, il y a eu d'énormes débats, de très intenses discussions, très rudes, très affirmées, qui participent d'ailleurs à la complexité que vous énonciez. Mais cette complexité, en fait, elle est due à quoi? Elle est due à toutes ces discussions où de nombreux écrans de fumée ont été dressés devant la réalité pour rendre les choses complexes. Voilà, parce que ça faisait partie du débat et de la discussion. Mais sur le fond, lorsqu'on enlève les écrans de fumée, le déroulé est quand même assez limpide et assez simple à comprendre. Je veux dire, c'est pas forcément facile, ça demande un peu de travail et d'exigence, mais c'est pas non plus insurmontable. Et depuis 1994, les choses ont énormément avancé. En prenant les grands axes, il y a une première enquête Bruguière qui attribuait au nouveau pouvoir arrivé après le génocide la responsabilité de l'attentat, qui est une enquête totalement biaisée, qui a été reprise par un de ses adjoints, par plusieurs juges, dont un de ses adjoints, qui s'appelle Trévidic, qui a poursuivi l'enquête et qui a démonté l'enquête de son ancien supérieur, ce qui est quand même assez incroyable, et qui arrivait, lui, plutôt à la conclusion que c'était les troupes présidentielles qui avaient réalisé l'attentat contre leur président, pour justement précipiter l'avènement du génocide, qui était attendu par la casou dont vient de parler Michel et qui était préparé depuis longtemps. Et lorsque l'on connaissait le Rwanda, c'était pas cette thèse-là, ça était la plus logique et naturelle dès le début. Et moi, je me souviens à l'époque, je vais être très court, mais à l'époque, lorsque j'entends pour la première fois, je suis au bord du lac Kivu, en plein génocide, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, et j'entends à la radio qu'un gars qui s'appelle Barry est intervenu pour dire « j'ai la boîte noire », etc. J'entends ça à la radio RFI, et j'éclate de rire tellement c'est grossier, tellement c'est incroyable, tellement ça sent le montage. J'éclate de rire, je me dis « mais personne ne pourra croire ça ». Et je constate avec stupéfaction que la presse suit les déclarations de Baril et les prend au sérieux. Et je ne comprends pas, parce que ça, rien d'entrée de jeu ne tient la route. Et il y a cette espèce d'aveuglement qui va durer très très longtemps et qui va nourrir énormément de débats, où en fait on ne veut pas voir ce qui s'est passé. Ce qui est le propre de tout génocide. Parce que un génocide, dans sa nature même, porte la négation. C'est même presque une preuve de la réalité du génocide, la négation. Et ne pas vouloir voir, parce que c'est tellement énorme comme événement, c'est tellement insupportable humainement, c'est une confrontation. Si on commence à rentrer dans le mécanisme et dans tout ce qui s'est passé, c'est une confrontation humaine. On est obligé de se réduire à l'os pour essayer de comprendre. Et voilà, donc le réflexe naturel est de mettre les choses un peu de côté, parce que c'est trop dur. Mais en fait, les éléments sont sont perceptibles assez rapidement.
Oui, et même antérieurement. Et vous dites, lorsque vous allez en 90, donc la première fois au Rwanda, est-ce parce qu'il y a eu, et Michel en parle dans son roman, ces premiers massacres déjà qui sont opérés dans la région de Kibilita par les milices et qui suscitent l'envoi d'ailleurs d'un premier détachement d'amis de Panda de la France. Est-ce que c'est pour cela que vous étiez en 90
En 90, qu'est-ce qui se passe en octobre 90 des rebelles apparaissent au nord, rentrent dans le pays par le nord du Rwanda. Et donc je vais, c'est mon travail, je vais au Rwanda pour recouvrir cet événement. Et qu'est-ce que je constate à peine arrivé sur place? Que Kigali est en état de siège, que des rafles s'opèrent partout, que le stade de Kigali est rempli de gens dans un état lamentable. Je vois des fonctionnaires qui embarquent dans les coffres de leur voiture des listes. Je leur demande des listes de quoi? Ils me disent des listes. Enfin, voilà, on est dans une ambiance déjà extrêmement tendue et on entend des mots qui font dresser l'oreille. Mais dès 90, et Michel en parle dans son roman, il y a aussi un montage des 90 d'une fausse attaque sur Kigali où le régime de Kigali vient dire voilà, Kigali est attaqué. En fait, ce sont ces soldats qui tirent en l'air et les Français font semblant de croire que Kigali est attaqué. Les Français, je veux dire. Parce que Paris a envoyé des soldats, comme la Belgique a envoyé des soldats, comme le Zaïre a envoyé des soldats, enfin le Zaïre, le Congo aujourd'hui a envoyé des soldats, et Paris fait semblant de croire que Kigali était vraiment attaqué. C'est, d'entrée de jeu, on est dans quelque chose qui guidonne de tous les côtés. Et c'est incompréhensible à l'époque, parce que le Rwanda est un petit pays de la taille de la Suisse, il n'y a pas d'intérêt particulier, voilà. Il se produit quelque chose de très étrange. Et pour un journaliste comme moi, lorsqu'on constate ça, on reste accroché au dossier. Donc à partir de 90, je n'ai personnellement jamais décroché du dossier.
Mais pour autant, et vous le racontez bien, Michel, dans le roman, en avril 92, avec le premier gouvernement démocratique, et en juillet 93, avec les accords de paix d'Arusha, on peut croire à une espèce d'éclaircie. On peut penser que, effectivement, le régime autoritaire sera peut-être un peu atténué et qu'il peut y avoir une espèce de pré-réconciliation. Enfin, réconciliation, il n'y a pas encore des ordres. En tout cas, la milice va commencer à perdre un peu de pouvoir, les milices.
Oui, en tout cas, c'est ce que je raconte dans le roman. Moi, je voulais effectivement que ce roman, ce soit, mon héroïne, elle s'appelle Espérance, donc ce soit un roman aussi qui raconte comment ce pays va aussi essayer de marcher vers la démocratie, en tout cas comme un certain nombre de héros, hein, comme Agathe Uwilingui Imana, donc la première...
J'aime bien quand il le prononce.
C'est pas tout à fait bon, mais bon. Et nommée première ministre, hein, donc, et c'est une des premières femmes première ministre en Afrique, et je pense qu'effectivement, sincèrement, il pense que soutenu par l'ONU, qui va être présente, enfin, la France est d'abord présente, puis la France officiellement se retire, même s'il reste le fameux Dami Panda qui est présent dans ce roman. Après, c'est l'ONU qui intervient, mais à ce moment-là, je pense que, effectivement, enfin, Patrick le saurait mieux que moi, eh bien, là, avec cette présence de l'ONU, on peut penser qu'il y aura une solution pacifique et que finalement les accords d'Arusha vont triompher. Et voilà, en tout cas, on est sur ce jeu-là. En tout cas, moi, ce que je voulais montrer, c'est que à travers ces personnages, comme celui de Lando aussi, qui a toujours cet hôtel, alors Patrick m'y a emmené, c'est incroyable de voir qu'un des personnages historiques les plus importants, c'est encore cet hôtel où on peut aller à Kigali. Et que je voulais vraiment mettre ces personnages pour montrer qu'en fait, l'image qu'on peut avoir du Rwanda, même des amis autour de moi qui sont pour leurs amis qui suivent l'actualité, etc., c'est finalement une sorte de violence de part et d'autre. Il y a toujours la violence aujourd'hui. Voilà, bah, finalement, le Rwanda est en conflit avec la République du Congo. Donc il y aura toujours de la violence, etc. Et finalement, on n'y comprend rien parce qu'il y a ces gens. Moi, je voulais dire non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, ils ont les mêmes aspirations. Enfin, ça, c'est un de mes grands débats quand je travaille sur la démocratie en Afrique. C'est non. Et les Africains ont les mêmes aspirations. Ils ont des aspirations à la démocratie. Les femmes ont des aspirations à se libérer. Ils veulent que leurs enfants soient éduqués. Enfin, il y a les mêmes aspirations. Et je voulais qu'on comprenne que quand ce génocide arrive et qu'il va y avoir ces centaines de milliers de morts, bah, parmi ces centaines de milliers de morts, c'est des profs, c'est des médecins, c'est des gens ordinaires qui voulaient vivre normalement. Voilà, à un moment donné, c'est des détails, mais juste au moment où le génocide explose, Espérance va se sauver, puis il y a son voisin, c'est un détail, c'est une ligne. Il me dit qu'est-ce qu'il peut faire, puis, c'est un vendeur de motos, puis il vendait des motos à tout le monde, puis il réparait les motos de tout le monde, et tout de suite, et tout. Il est un des premiers tués, alors que lui, voilà, c'est juste... Voilà. Et ça, je voulais montrer que... Voilà, c'est un pays comme un autre. En Afrique, ce sont des pays comme les autres, où les gens ont les mêmes aspirations, et après, il y a tout un tas d'enjeux qui font que très souvent, leur destin bascule. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Mali,
On avait des étudiants qui travaillaient au Mali, on travaillait avec des profs maliens, puis un jour, sur France Inter, j'entends « coup d'État au Mali, on ne peut plus y retourner ». Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tous les travaux qu'on avait s'est arrêté. Nos étudiants disaient « vous ne pouvez plus retourner au Mali ». Et les profs ont continué de discuter avec eux au téléphone, etc. Et on ne peut plus rien faire. Voilà, c'est fini, c'est foutu. Et c'est vrai qu'en connaissant, on a envie de se dire « mais ben, ces pays-là, ils vivent ». Et donc c'était personnalisé. Le roman, il sert à ça. Il sert aussi à rendre beaucoup d'empathie pour mes personnages. Même si ces personnages, certains vont survivre, d'autres vont mourir. Mais du coup, les gens, par le roman, se disent « c'est quand même incroyable que ces gens qui étaient à ce point pleins d'espoir, d'énergie, etc., vont sacrifier leur vie pour une cause qui les dépasse ». Et ça, je pense que vu de France, vu d'Europe, on se dit « waouh, quand même voilà, ils ont fait le même chemin que nous, ils veulent faire le même chemin que nous ».
Et votre roman, il montre bien aussi qu'en janvier 1994, alors que les milices hutus prévoient d'organiser des émeutes, etc., on aurait pu, si la France était intervenue, si la MINVAR, c'est-à-dire l'ONU, il y avait quand même 2500 casques bleus à cette époque-là, étaient intervenus, alors qu'on leur dit « on ne bouge pas », le massacre aurait pu être évité. C'est terrible, enfin, dans le roman, on se dit « mais à quoi ça tient ?» Enfin, c'est...
À peu près, on peut toujours se dire ici et ici. C'est le premier point. Mais je voudrais juste revenir rapidement sur l'idée de démocratie. En fait, c'est nous qui, par moments, biaisons l'idée démocratique. Moi, je me souviens à l'époque ce que j'entendais à l'Élysée, ce qu'elle n'a cessé de répéter ensuite Hubert Védrine pendant 30 ans, c'est la démocratie majoritaire. Ça veut dire la démocratie de l'ethnie majoritaire. Puisque les Hutus sont majoritaires, ben, le régime doit être Hutu. L'idée démocratique était violentée par nous-mêmes. Ce n'est pas les Africains qui violentaient cette idée de démocratie. Ce sont nous-mêmes qui avions une vision totalement tronquée de la démocratie, reprenant d'ailleurs l'ancienne des extrémistes autour qui, eux, se réclamaient du peuple majoritaire. Et donc nous accréditions leur discours, le reprenant dans notre bouche et le répercutant et le légitimant. C'est ça qui est absolument phénoménal.
Et oui, c'est ça qui m'a passionné au Rwanda. Moi, quand j'ai travaillé sur la démocratie, c'est mon HDR sur la démocratie, c'était ça. C'était de montrer que quand on compare les démocraties, on ne peut pas comparer. Effectivement, il y a des votes communautaires, il y a des votes qui sont des votes d'opinion, il y a des votes des gens. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Et effectivement, on ne peut pas, comme ça, claquer un modèle aussi bien. Et à un moment donné, je vais dire à Espérance, effectivement, que eux, et c'est vrai, croyait effectivement qu'on pouvait avoir des gouvernements qui mêlaient des Tutsis et des Hutus, Landau était Tutsi, etc., et que c'est la France et l'Irlande qui, quelque part, faisait moins confiance que nous faisaient confiance, on va dire, les modérés libéraux qui, eux, croyaient finalement à cette possibilité de la réconciliation. Et que c'est la géopolitique hein, qui quelque part, empêchait une part de cette réconciliation. Donc, tout à fait, je confirme à ce que dit Patrick, hein, c'est effectivement très important cette idée de la définition qu'on peut avoir des critères démocratiques.
Et après, pour les. Et si, c'est un peu facile, parce que l'ONU, c'est nous, hein, nous participons à l'ONU comme un certain nombre d'autres pays, alors en permanence dire c'est la faute de l'ONU parce qu'il y avait 2500 casques bleus qui étaient présents sur place et qui ne sont pas intervenus, mais ils ne sont pas intervenus parce qu'on ne les a pas autorisés à intervenir, et on ne les a pas autorisés à intervenir parce que le représentant du Rwanda faisait partie à l'époque du Conseil de sécurité de l'ONU, où c'est une présidence tournante, et puis Paris aussi n'était pas forcément très volontaire pour un certain nombre de choses. Donc après, il faut aussi considérer que les gens ne sont pas tous idiots. Là aussi, c'est aussi notre regard. C'est que les extrémistes qui étaient dans leur logique ont assassiné 10 casques bleus belges délibérément pour faire partir les casques bleus, pour les inciter au départ. Et la Belgique a retiré ses casques bleus. Et les parachutistes belges étaient dégoûtés et ont déchiré leur béret au couteau, arrivés à Bruxelles pour faire part de leur dégoût des ordres qu'ils avaient reçus de la part de leur gouvernement. Voilà, c'est un nombre de lâchetés, en fait, extrêmement important qui aboutit à ce résultat catastrophique. Et derrière, on peut toujours dire ici, mais les lâchetés ont été là, elles ont été actées, elles sont probantes. Donc en fait, ce n'est pas tellement le SI qui compte, c'est est-ce que nous sommes capables d'être courageux, d'avoir des actes par moment qui affirment quelque chose, qui disent quelque chose. Et ça, c'est des questions auxquelles les gouvernements sont en permanence confrontés. Et de manière très simple, là, les autorités françaises n'ont pas été à la hauteur comme un certain nombre d'autres autorités. On ne peut pas dire autrement. Il faut bien considérer qu'un génocide ne peut être accompli parce que c'est un crime qui mobilise tout un État, qui mobilise des forces considérables. Ce n'est pas simplement un massacre ou un petit crime. Ça mobilise un élan, une masse financière, un contrôle considérable. Il faut enterrer les corps parce qu'il ne suffit pas de tuer. Il faut les nettoyer, les rues, parce qu'après, il y a des maladies. Il faut armer les gens. Enfin bref, ça suppose un tel état d'esprit qu'un génocide ne peut être accompli qu'avec la complicité des autres États. Je veux dire complicité, le silence des autres États. Et si les autres États ne parlent pas, ben le génocide va s'accomplir. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda.
1 million de morts en 100 jours, plus de 10 000 par jour. Même les nazis n'ont pas fait mieux. C'est ce que vous faites déclarer à votre journaliste belge, Nadine X, qui est un formidable personnage, qui vous a été inspiré, qui est une traqueuse de criminels, et qui vous a été inspiré, je pense, par d'autres journalistes du même tonneau. Cette phrase est terrible, et un peu plus loin, vous dites, effectivement, d'avril à juin 1994, le monde a fermé les yeux. C'est ça, en fait.
Oui, c'est un peu le titre, Les Ombres du Monde, c'est aussi parce que effectivement, le Rwanda était dans l'ombre pendant ces 100 jours. Oui, je ne sais pas quoi rajouter vraiment par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai effectivement, je me suis appuyé sur beaucoup de travaux, de Colette Brackmann notamment, qui sans son premier ouvrage, j'ai décrit comme très très précisément les choses, évidemment de Schoenfeld, qui parle beaucoup évidemment du génocide. Et j'ai essayé de. C'était un des enjeux du roman, c'est d'être très pédagogique. Par exemple, je vois dans les extraits de mon roman, qui sont par exemple sur les sites comme Bamelio, etc., les extraits sont souvent les extraits qui parlent justement du génocide, qui parlent de, entre guillemets, la façon dont ce génocide s'est déroulé, de son... c'est ça, on a eu des termes, hein, on a parlé du génocide au village, on a évidemment une saison de machette, on a parlé de son... Enfin, du nombre de morts par jour, enfin, de quelque chose qui était presque artisanal, enfin, voilà, donc... Et donc, oui, j'ai essayé de faire des éléments de... entre guillemets, de pédagogie pour expliquer ce qu'est un génocide, ce que ce génocide des Tutsis au Rwanda a de particulier. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, c'est assez connu. L'idée qu'on a essentiellement tué par l'interconnaissance, parce qu'on tuait ses voisins, parce que comme il n'y avait pas de différenciation réellement physique entre les deux, comme c'était juste une carte d'identité qui permettait de savoir si vous étiez Tutsi ou tout, eh bien, je crois que c'est à peu près 90% des Tutsis qui ont été assassinés dans leur village, donc par des voisins, parce que dès que vous quittiez le village, finalement, on ne vous connaissait pas, donc vous pouviez encore avoir une chance, quelque part, de nier l'identité à laquelle on vous a signé. Bon, donc voilà, donc ça, c'était effectivement, il fallait expliquer un peu tout ça, tout ce que ça a, pas juste un peu un travail de voyeuriste sur l'horreur absolue et toutes les anecdotes plus horrifiques les unes que les autres que j'ai pu lire, mais aussi expliquer ce que ça veut dire. Pour ça, par exemple, dans le roman, j'invente une équipe de basket. T'essayes à chaque fois de montrer comment la fiction arrive. J'ai eu beaucoup d'histoires, par exemple, d'équipes de football. Je me rappelle, on interroge aussi, notamment à un moment donné, c'est très émouvant dans les saisons de la fête, toute une équipe de football, et un certain nombre de bourreaux, enfin, de victimes qui vont jouer dans la même équipe, et il essaie d'expliquer pourquoi certains ont assassiné ceux avec qui ils jouent au ballon encore quelques semaines auparavant. Et donc, je ne reprends pas ça, mais moi, j'invente une équipe de basket, donc je ne sais pas, enfin, j'ai regardé, je ne sais même pas si vraiment il y avait un championnat de basket au Rwanda avant 94. Je pense que oui, parce qu'il y avait quand même quelques équipes. Et voilà, je me dis, voilà, il y a 5 personnes, donc 5 personnes, ça permet que le lecteur mémorise ces 5 personnes, sachant qu'évidemment, par là, il y aura des victimes, il y aura des bourreaux, il y aura des jeux qui vont s'opérer, ils auront tous leur caractère, certains seront riches, d'autres pauvres, mais enfin, ils jouent tous dans la même équipe, et quelque part, voilà, quels seront les destins. Donc ça, je pense qu'à travers cette équipe de basket, je dessine des portraits de ceux qui seront assassinés, de ceux qui vont tuer. Et bon, voilà, après, c'était l'enjeu d'en faire un écran.
Autre personnage, si je peux dire, du roman, vous avez évoqué, Patrick, c'est la fameuse boîte noire du Falcon. Donc, on vous rappelle que le 6 avril 1994, donc, Il y a un attentat contre le Falcon du président Juvénal. Bon, que c'est ce qui va être l'élément totalement déclencheur du génocide. Et vous vous amusez, entre guillemets, avec cette boîte noire. Vous imaginez que Espérance l'a récupérée. Et en fait, on n'en sait rien encore aujourd'hui. On ne sait pas où elle est, cette boîte noire qui pourrait...
Docteur. À la boîte noire, l'histoire de la boîte noire. Non, c'est...
On va pas... Non, ça va être
non,
un peu long.
Non, c'est pas très long. Au moment du 10e anniversaire de commémoration, commémoration du génocide, apparaît à la une du Monde une information comme quoi l'ONU aurait tragiquement échoué puisqu'une boîte noire permettant d'élucider l'attentat aurait atterri depuis un certain nombre d'années sur une étagère de l'immeuble de l'ONU sur l'Hudson à New York. Donc Arro sur l'ONU et la boîte noire enfin identifiée, supposée contenir tous les mystères, etc. Et Bruguière va utiliser énormément cette information pour accréditer sa thèse. Sauf que, en lisant le dossier d'instruction, il apparaît quelque chose d'extrêmement évident, c'est que il a bien... lorsqu'on lance une piste, on est quand même, lorsqu'on est juge, obligé de faire un minimum de travail. Ce qui est assez surprenant de la part de Bruguière, mais il l'a fait quand même. Et donc il a été obligé d'aller au bout de sa piste, et au bout de sa piste, assez simple, c'est une boîte noire de Concorde, dont le contenu audiovisuel enregistré, enfin audio enregistré, était monté. Donc c'était complètement ahurissant de voir ça. Mais ça pose plusieurs questions, pas parce que cette boîte noire avait une histoire. Elle avait été ramassée dans l'herbe à Kigali, pas très loin du lieu de l'attentat, et puis elle était arrivée jusqu'à New York, et puis des gens savaient exactement dans quelle armoire, à quel étage, au quartier général de l'ONU, elle était. Et la question était évidente dans ces cas-là. Qui a les moyens de récupérer une boîte noire de Concorde? Il n'y a pas beaucoup de boîtes noires de Concorde. Qui a les moyens de suivre tout le trajet de cette boîte noire? Qui a les moyens de monter une bande audio artificielle? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Donc voilà, cette boîte noire, elle dit quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, elle n'a toujours pas été retrouvée. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas la boîte noire qui va résoudre l'attentat, qui va élucider le mystère, parce que la boîte noire va donner les conditions de l'attentat contre l'avion, de la manière dont ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du cockpit, mais elle n'ira pas au-delà, jamais elle donnera l'identité du gars qui a appuyé sur la gâchette. Et là, Michel émet une thèse qui est intéressante, mais je vais le laisser exposer sa thèse, pas parce que ça lui appartient, mais c'est une thèse effectivement intéressante, et il y a encore beaucoup de travail à faire pour résoudre cet attentat, si on veut vraiment travailler, mais il n'est pas fait pour l'instant.
Oui, moi, c'est vrai qu'en lisant effectivement cette histoire incroyable de l'attentat, de la boîte noire, mais aussi des missiles, hein, des deux missiles, donc Sol-Air, qui les a achetés, d'où ils viennent, etc. Il y a énormément là, de travail. Puis là, je tiens effectivement la trame d'espionnage de mon roman, et donc ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail, effectivement, pour arriver à armer, la réalité. À mon héroïne qui, donc voilà, on peut révéler, enfin voilà, son secret, c'est qu'elle va trouver la boîte noire, elle va essayer de la cacher, et donc elle connaît la vérité sur les auteurs de l'attentat. Mais au-delà de ça, moi quand j'écris ce roman, on a déjà le rapport de Vincent Duclert, donc la responsabilité accablante de la France est reconnue par Emmanuel Macron. Donc, et quelque part, je vois bien que je me heurte, et je pense que c'est le cas de Patrick, à cette idée, ben voilà, l'histoire du Rwanda, elle est bouclée. Voilà, on a fait le travail, les historiens ont travaillé, le président a reconnu la responsabilité, voilà, on passe à autre chose. Or, non, quand on lit énormément sur le Rwanda, on s'aperçoit qu'il y a un autre enjeu, qui est quand même celle de la complicité de la France, et donc, et dans le rapport Duclert, on conclut qu'il n'y a pas de complicité de la France, mais surtout qu'il n'a pas eu le temps, qu'il n'a pas les éléments pour aller jusqu'à imaginer une complicité de la France, notamment sur la question de l'attentat, c'est-à-dire, est-ce que qui a tiré, qui a provoqué l'attentat? Est-ce qu'il y avait notamment des mercenaires français qui ont aidé ou appuyé sur le bouton? Ou est-ce que, tout simplement, des services secrets français sont au courant de qui a tiré et l'ont caché? Donc ça, là, on est quand même dans autre chose que la responsabilité. On est quand même là dans le secret d'État ou dans le mensonge d'État. Et clairement, moi, il me semble, peut-être que c'est aussi un peu pour ça que j'écris ce livre, qu'il faudrait que le travail de Vincent Duclert soit prolongé, qu'il y ait une nouvelle commission d'enquête ou qu'il y ait une commission d'historien, enfin que sais-je, en tout cas, qui travaille spécifiquement sur l'attentat, qui travaille spécifiquement sur la relation entre l'armée française et les mercenaires français, donc Paul Baril ou Babdenard, enfin qui étaient en présence au Rwanda. Et je pense que ce travail d'historien
de journaliste, d'enquête, doit être officialisé, doit être réouvert. Parce que dans le rapport du clerc, on dit clairement que lui, il n'a pas eu le temps d'aller jusque-là, ça n'était pas sa mission. Moi, je pense que c'est l'enjeu, c'est le nouvel enjeu, et c'est peut-être si mon livre un petit peu permet d'en faire parler et de pousser. Mais je ne suis pas le seul, évidemment, Patrick, les associations, etc., sont là pour pousser. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut y retourner, quoi. Il faut savoir, parce que je me rends bien compte quand les gens ont lu mon roman, sont un peu interloqués, ils ont dit, mais on doit connaître la vérité, on doit savoir, on ne peut pas rester avec un baril qui arrive à la télé, qui n'a jamais été interrogé, dont on... Voilà, enfin, il y a tant de mystères, enfin, des gendarmes français qui ont été assassinés le lendemain et dont, voilà, la famille demande une enquête qui n'a jamais été réalisée. Enfin, l'équipage français de l'avion qui est mort. Enfin, on a trop de choses sur cet élément précis où je pense qu'il faudrait effectivement qu'il y ait une enquête spéciale. Et moi, depuis que j'ai écrit le roman, j'ai un accueil très chaleureux des lecteurs, des journalistes, des librairies. Mais par contre, j'ai zéro réaction des politiques. Il y a eu quand même des articles très, très véhéments sur ces questions-là, enfin, Jean-Paul Baril, etc. Zéro réaction politique. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'indifférence ou de silence autour de cette question-là, en se disant, mais comment, et je suppose que moi j'arrive tout neuf là-dessus, mais je suppose qu'un certain nombre de personnes qui se battent depuis 30 ans voient la même chose, c'est-à-dire comment arriver à ce que les médias, ce que l'opinion publique soit moteur pour essayer de faire connaître la vérité.
Bah, Patrick, lui, a eu beaucoup de... Il faut qu'on termine. Il a eu beaucoup de procès, beaucoup d'ennuis judiciaires après la publication de ses livres. Vous, quoi, a priori, les politiques ne bougeront pas, ça devrait être plutôt calme.
C'est pas la même chose. Ouais, effectivement, c'est un roman, donc bon, peut-être qu'on pourrait l'accuser sur certaines choses, mais on est sur une fiction. Je pense qu'évidemment, c'est plus compliqué quand on est journaliste ou responsable d'une association et qu'on va évidemment attaquer le réel.
Non, mais pour enchaîner rapidement sur le propos, c'est vrai qu'il y a d'énormes verrouillages sur cette question-là. Si on prend simplement l'histoire de Paris, le Paris reste encore un peu protégé, entre guillemets, par les services de l'État. Lorsqu'il y a eu la première mission d'information parlementaire, il devait être auditionné, il a été écarté au dernier moment, les parlementaires n'ont pas voulu l'entendre de manière volontaire. Ensuite, il a été soumis à enquête, mais l'enquête, lorsqu'on lit le compte-rendu d'enquête d'interrogatoire que fait Bruguière de Paris, on a l'impression d'avoir deux gars qui prennent le thé ensemble, qui se... comment va ta fille, t'es en forme, voilà. Donc c'est super sympa. Enfin, moi j'aimerais bien être interrogé par un juge d'instruction sur ce mode-là. Je lui raconterai des nouvelles de mes enfants, je lui dirai que tout va bien. Non, mais c'est vraiment ça, là, je rigole, mais je rigole pas du tout, en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est atterrant, parce que ça donne une idée du fonctionnement de la justice. Hein. Je parle juste de Bruguière, hein. Je parle pas de la justice en général. Et du fonctionnement de la justice au travers du cas Bruguière, qui est édifiante. Et tout est comme ça, en fait. Et sur l'attentat, ben, y a des verrous extrêmement importants quant aux possibilités d'enquête.
On sautait un de ces jours.
Mais je sais pas. Mais pour rentrer alors là un tout petit peu dans la sensibilité de la chose, il ne faut pas oublier que le soir de l'attentat, quelqu'un se suicide à l'Élysée. Oui. Officiellement, ça s'appelle un suicide. Il s'appelle François Grosouvre. Il est conseiller de Mitterrand, à l'époque chargé des chasses, mais enfin, il sert un peu à tous les circuits. Il est retrouvé mort à l'Élysée. Des livres seront écrits sur Grosouvre. Bizarrement, on ne mentionne pas un certain nombre d'éléments sur l'histoire de Grosouvre. C'est absolument incroyable. Nous avons, je le dis très sincèrement, par moments, une capacité d'autocensure importante, à ne pas dire les choses, ou à ne pas vouloir, en tout cas, s'interroger sur les choses. Et pour essayer de trouver des réponses.
Je suis désolée, ça fait un peu cheveux sur la soupe, mais je suis quand même obligée de vous interrompre.
Oui, il faut.
Je vous propose de continuer la conversation à l'étage, puisqu'il y a un petit déjeuner qui vous attend dans le salon Catherine Deneuve, par lequel on accède à...
Alors, je termine juste deux secondes dans l'élan, et c'est la force du roman de Michel. C'est qu'il permet de nourrir ces interrogations, et il permet à chacun de se poser des questions justifiées et au travers de ce roman. Et c'est là où c'est une démarche qui est sincèrement très bien. Voilà, je ne peux pas dire autre chose.
Nous aurons en 20 ans, Michel nous offrira un deuxième tome, et nous en saurons beaucoup plus. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.
Merci à tous.